des polars et des notes.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion pour une heure de littérature noire en compagnie des auteurs qui l'écrivent et de ceux qui la font vivre. Vous êtes dans Des Polars et des Notes, nous sommes toujours à Concarneau et nous poursuivons notre enquête sur les écrivains présents sur la 23e Salon du Chien Jaune qui se déroule du 21 au 23 juillet. Un plateau encore une fois passionnant et varié cette année. Un peu de musique avant d'attaquer le copieux menu de cette émission. On va écouter un petit peu de Cypress Hill, Insane in the Brain.
You're trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Les vacances, c'est le temps du voyage aussi et nous allons faire un tour en Mongolie avec Yann Manouk qui promène son héros flic d'Oulan-Bator, Yeruldegger. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors vous êtes bourlingueur, journaliste, éditeur de magazines TV, jeunesse, patron d'une boîte de com, on compte plus tout ce que vous faites.
Ouais, en fait j'ai été tout ça.
Ouais.
Mais malheureusement je suis un jeune vieil auteur. Pour situer les choses, je suis né dans la première moitié du dernier siècle du millénaire précédent.
Moi aussi.
Donc j'ai été tout ça.
Et toujours autant de passion.
Oui, oui, mais maintenant que je travaille que dans l'écriture, oui, bien sûr, autant de passion. Ouais.
Mais alors, quelle idée d'avoir pris un flic de Oulan-Bator ? C'est quand même pas courant, quoi.
Bah, l'histoire commence un peu à être connue. En fait, je viens à l'écriture. J'ai toujours écrit, toujours. Mais je n'ai jamais rien terminé pendant 50 ans. J'ai commencé à écrire à 15 ans et à 60 ans, je n'avais rien terminé. Et puis quand ma plus jeune fille a eu l'âge de lire ce que j'écrivais, je lui ai rapporté le soir ce que j'écrivais parce que je n'écris pas chez moi. Je ne peux pas écrire au calme. J'écris dans les cafés, dans les aéroports, dans les trains, sur mon lieu de travail pendant longtemps. Et donc je l'ai ramenée à lire ce que j'écrivais. Elle lisait à chaque fois ce que je faisais. Elle s'est attachée au personnage pendant 2-3 ans. Et puis en 2009, elle a décidé de partir vivre en Argentine. Donc je lui ai demandé si elle voulait que je lui envoie ce que j'avais écrit. Et là, elle a piqué une colère en disant qu'elle avait ras-le-bol, que ça fait 2-3-4 ans qu'elle lisait des destins de personnages, des personnages dont elle connaissait ni le destin, ni la fin de l'histoire, enfin rien. Et elle a piqué une colère, elle a dit qu'elle ne lirait jamais plus rien tant que je n'aurais pas terminé quelque chose. Et dans le genre de défi qu'un père peut avoir avec sa fille, je dis bon, mais puisque c'est ça, je vais t'écrire 2 bouquins par an, dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois, et puis je vais les publier si possible. Et donc j'ai fait une liste, et le polar était le 4e sur la liste. J'ai fait les 3 premiers, le polar était le 4e, donc je me suis trouvé devant l'obligation d'écrire un polar. Et comme j'ai aucune culture polar, je n'ai jamais lu de polar avant d'écrire le mien, ou très peu, hein. Je me suis arrêté dans les années 80 à Ludlum, Forsyth, Le Carré, qui était plus des thrillers anglo-saxons que des polars. Je suis allé repêcher un vieux personnage que j'avais en réserve, sur lequel j'avais travaillé 10 ou 15 ans plus tôt, qui était flic new-yorkais dans le Brooklyn, qui s'appelle Donnelly, auquel d'ailleurs je fais un clin d'œil dans le 3e volume de Yaroul Elger. J'ai pris ce mec et je me suis dit, si je veux me faire remarquer, où je peux le situer, quoi. Et comme il avait une carrure un peu minérale, il avait une épaisseur granitique, je me suis dit, voilà, je vais le situer dans un endroit minéral. Et j'ai tout simplement cherché dans mes souvenirs de voyage l'endroit minéral qui lui correspondait. Et j'ai eu le choix entre des voyages que nous avions faits en Patagonie, Alaska, Islande ou Mongolie. J'ai choisi la Mongolie pour son côté chamanique. Je me suis dit que les choses essentielles dans le polar, la mort, la violence, la rédemption, le pardon, la vengeance, ça, dans la culture chamanique, ça avait une aspérité légèrement différente qui pouvait me permettre de donner à mon personnage une rugosité particulière. Et apparemment, ça a bien marché.
Ça a bien marché, mais il y a le côté chamanique, il y a aussi le côté un peu fin du monde, avec la frontière qui est proche, surtout dans le deuxième, les temps sauvages, avec la frontière de l'ex-URSS qui est très proche, et la catastrophe écologique, parce que Oulan-Bator est très, très pollué.
Oui, ça j'ai découvert... après, dans ma manière d'écrire, on en reparlera peut-être, mais en tout cas, la fin des 3 bouquins, j'ai toujours conçu comme une fin à la western. C'est-à-dire, soit c'est une course-poursuite, soit c'est un duel. J'aime bien ça. Je trouve que ça met de l'intensité, et puis c'est ma signature, quoi. Et je me suis aperçu qu'on était vraiment dans une sorte de, pas far west, de far east, et qu'il se passe vraiment là-bas des choses dont on n'a aucune idée, quoi, et dont on se fout d'ailleurs. Complètement, parce que c'est loin de chez nous. C'est pour ça que je me permets de faire une déclinaison sur le nazisme et la Shoah dans le premier, parce qu'il existe vraiment un bar nazi à Ulaanbaatar. On peut boire des bières servies par des mecs habillés en Waffen-SS. Et je peux vraiment dire que c'est... oui, d'un côté, c'est scandaleux, quoi, c'est honteux, vu ce qui s'est passé. Puis d'un autre côté, il se passait à l'époque des choses aussi terribles, bien qu'il n'y ait pas d'échelle dans l'horreur, mais aussi terribles chez eux, dont on se foutait complètement. C'est-à-dire les tentatives de colonisation japonaise ont été d'une violence terrible, les tentatives chinoises d'une violence absolue. Ils ont eu 3 générations d'un régime soviétique le pire possible, parce que ces mecs-là sont passés directement soviétiques sans que l'URSS n'ait quelque chose à faire. C'est le pays, premier pays qui devient soviétique après la Russie, tout seul, comme les grands, directement qu'à Staline, quoi, avec l'interdiction des noms propres, interdiction d'écriture, enfin, l'examination de 47% des moines dans les monastères. Et donc, il y a effectivement une notion de fin du monde ou de renouveau du monde, on ne sait pas, hein, avec l'éveil de la Chine, avec une Sibérie à la dérive, depuis que Poutine ne s'intéresse que à l'Occident. Une Sibérie qui dérive avec des relents de nationalisme ultra-violents, ancrés dans des traditions de Far East, de Far West, assez violentes, qui cherchent presque des notions de presque d'autonomie, voire d'indépendance, et tout ça avec à côté des géants économiques et des nains géographiques comme la Corée et le Japon, et tout ça autour d'un pays qui est... C'est quoi? C'est 3,5 millions d'habitants sur 2,5 fois la France, quoi. Donc c'est un pays qui vaut rien. C'est-à-dire, la Mongolie, comme mon héros, voilà. Mon héros, je l'ai voulu granitique et en même temps extrêmement fragile. Je dis quelque part que c'est un granit et qu'il y a des failles, et par les failles, il pourrait se vider de son sable. Et la Mongolie, c'est pareil. La Mongolie pourrait disparaître économiquement, géographiquement et politiquement dans les 20 ans qui viennent. Il faut savoir que la Mongolie est située sur une des plus grosses lignes de failles. Et c'est le seul pays à avoir eu, je crois, 5 séismes de plus d'échelle supérieure à 5 ou à 7, pardon, 7,5. On n'en parle pas parce que c'est un pays où il y a la plus faible densité d'habitants et ces habitants habitent dans des tentes en feutre. Donc quand ça secoue, il n'y a pas de mort. Mais le même séisme au sud, en Chine, a fait 300 000 morts. Et le jour où ce séisme-là tombe sur Oulan-Bator, il n'y a plus de Mongolie parce qu'il n'y a que Oulan-Bator. Voilà, effectivement, oui, c'est des notions de fin du monde ou début d'un nouveau monde, on ne sait pas trop.
Et donc, reprendre de la doc après, vous cherchez ce qui est local dans les actualités, sur Internet
En fait, j'essaie de me documenter le moins possible, y compris après. Parce que ce que je veux dans les bouquins, c'est que ça soit basé sur mes souvenirs de voyage. Je ne peux écrire que sur les pays où j'ai bien aimé voyager. Là, j'ai fait une trilogie mongole. Le prochain, c'est sur le Pantanal, une très belle région du Brésil. Celui d'après, a priori, sera sur l'Islande, où j'ai aussi voyagé souvent. Et donc, je ne cherche pas beaucoup, beaucoup de documentation après. Généralement, ces pays-là où j'y ai voyagé, je m'y suis intéressé pendant 10, 15, 20 ans, ça m'a trotté dans la tête, j'ai lu ce qui est des choses dessus, j'ai des récits de copains qui en reviennent, qui y vont, etc. Et je vais juste vérifier. Mon effort de documentation, c'est dans la vérification. Mais il y a à peu près, je ne sais pas... Il y a moins de 10% de documentation acquise dedans. C'est 90%, c'est la documentation vécue. Quoi. J'ai horreur de tomber un bouquin où on sent, quelle que soit la qualité de l'auteur, si on est trop documenté, on régurgite automatiquement la documentation. Et j'ai horreur de lire un bouquin dans lequel on dit « Yerul Elger entre dans la yaourt, virgule, la fameuse tente traditionnelle mongole, virgule, et hop, bing, derrière, il y a deux pages sur la yaourt. » Je préfère ne pas me souvenir de tout de suite, et de distiller ce que je sais de la yourte au fur et à mesure que ça me revient quand j'imagine la situation avec mon héros. Quoi. Je trouve que c'est plus plaisant à écrire pour moi et je pense que c'est plus plaisant à lire pour le lecteur aussi.
Ouais, vous préférez par petites touches plutôt que de faire tout un exposé sur ce qui se passe à cette époque-là. Par exemple, vous parlez de l'hiver mongol et c'est tout le long de l'ouvrage, quoi. C'est par tout petit morceau.
Oui, quand dans le deuxième bouquin, dans les terres sauvages, effectivement, c'est l'hiver. Alors, moi, j'ai pas connu l'hiver mongol. On y a voyagé en été. Mais j'ai connu des hivers dans des pays, le nord des États-Unis, le Minnesota, où j'ai vécu un peu, l'Alaska. Et donc, tout ce qui concerne le froid, l'atmosphère, les dangers du froid, les conséquences sur le comportement, encore une fois, je l'appuie sur du vécu. Moi, j'écris du thriller et j'écris du romanesque. Donc j'ai absolument pas la volonté d'être juste à 100%. C'est-à-dire que...
C'est pas un documentaire.
C'est pas un documentaire. Si le froid que j'ai ressenti dans le Minnesota et dans l'Alaska, c'est, par la force des choses, c'est le même froid en Mongolie. Si j'applique ça sur les traditions que j'ai vécues en été, je sais que ça peut fonctionner. Encore une fois, vous avez raison, j'ai pas écrit un documentaire sur la Mongolie. J'ai écrit un thriller dont le décor est la Mongolie. Et c'est écrit par quelqu'un qui a voyagé là-bas, mais qui a aussi voyagé ailleurs. Et c'est la somme de tout ça, en fait. Et ce que je revendique avant tout, c'est le côté romanesque.
Et si vous aviez un conseil, justement, à donner à un auteur qui voudrait débuter ?
Ah, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a autant de techniques d'écriture que d'auteurs. Il y a quelques petites choses que j'ai découvertes, parce qu'encore une fois, je suis arrivé à l'édition, à être publié très tard. Il faut... comment dire ? Il faut savoir rester humble devant le travail. C'est-à-dire que l'écriture, c'est sûrement un don à l'origine. Je pense que ça se décline sûrement en talent, forcément, avec un travail. Mais c'est surtout du travail et du travail accepté. C'est-à-dire que savoir remettre en cause sa technique, son écriture, ses tics d'écriture. Moi, j'ai beaucoup de tics d'écriture, par exemple. Dans mon premier jet, je mets des petits partout. Ils tombent dans un petit fossé. C'est ridicule, un fossé c'est petit, sinon c'est un ravin. Donc il tombe dans un fossé, point. Et j'ai aussi le type d'écriture de mal construire mes phrases. Les phrases en français, elles sont plus fluides si elles sont sujet, verbe, complément d'objet direct en premier et les autres compléments derrière. Bon, de mon temps on disait complément circonstanciel. Bon, je sais qu'on dit plus ça, mais enfin grosso modo c'est comme ça. Et j'ai toujours tendance moi à mettre d'autres compléments avant le complément d'objet direct. Ce qui n'est pas important en soi. Sauf que l'alternance ou l'inversion des compléments, ça a pour but de renforcer la phrase. Et si je l'utilise à chaque phrase, ça perd sa force. Donc je m'habitue à reconstruire mes phrases dans le bon sens, de façon à ce que quand je veux dire quelque chose, je peux déstructurer une phrase. L'exemple, c'est « il défonce la porte d'un coup d'épaule ». Il défonce, sujet verbe, la commande d'objet direct. Hein, bon. Si je construis ma phrase toujours à l'envers, je vais perdre de la force. Mais c'est vrai que si je veux rendre visuelle la scène, alors j'inverse ce que c'est. D'un coup d'épaule, il défonce la porte. Et là, ça prend sa force. Mais si je l'ai fait 20 fois dans la même page, c'est un mode d'écriture et c'est plus une technique d'écriture.
Oui, c'est comme surligner un petit peu toutes les lignes. Voilà. Ça n'a plus aucun intérêt.
Exactement. Voilà. On ne surligne que 2-3 lignes dans la page. Sinon, autant peindre la page en jaune et puis...
Eh bien, merci beaucoup Yann Manouk. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'est La mort nomade, qui est paru chez Albin Michel. Et c'est toujours en Mongolie, c'est toujours Yérul Dégar. Et c'est la fin de la trilogie. Donc on va se quitter. Là, c'est un petit clin d'œil à ce qui vous est arrivé quand vous étiez aux États-Unis. Vous étiez le seul type à aller sur la côte ouest pour assister à Woodstock qui se déroulait sur la côte est. Et donc moi, j'ai choisi Jefferson Airplane, Somebody to Love.
Ah ben, c'est parfait. C'est parfait. Tout ce qui concerne Woodstock me fait très plaisir. Et en même temps, me fout un peu la honte, mais bon. Maintenant, il y a prescription. Mais oui. Pendant quelques années, sur les routes, j'ai vraiment été connu comme l'abruti qui est parti du mauvais côté.
Non, là, c'est un clin d'œil sympathique. Oui. Merci beaucoup, Yann Manouk. Bon festival.
Merci à vous.
All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn. The regular guys. Choose this.
romans de l'été, Dead Dance Floor maintenant. Vous ne savez pas quoi lire, le temps est parfois un peu long, allongé sur le sable en attendant de rôtir. Des Polars et de Nuts est là pour vous aider avec les romans de l'été de Dance Floor. Salut Dance, qu'est-ce que tu nous as mis de côté pour la bronzette haussienne?
Bonjour Patrick, ah mon Dieu, c'est déjà le mois d'août. Ah mais ça passe vite, c'est incroyable ça.
C'est dingue, ça file.
Mais c'est ça les congés payés aussi, hein. C'est vraiment encourager la fainéantise, moi je dis.
Attends, ça va pas durer.
Bon alors, pour pallier le grand vide du mois d'août, hein, je te propose encore deux romans.
Allez.
De très beaux romans, deux romans noirs, ça devrait te plaire.
C'est à tourner.
Pour commencer, encore une histoire d'enfants disparus. Deux fillettes, Anna et Lucia. Mais on n'aime pas les mots ou quoi dans la littérature, là je comprends pas.
Si, mais on les aime bien quand ils sont disparus.
C'est Monte Perdido d'Agustin Martinez chez Actes Sud, traduit par Claude Bleton. Ça se passe dans un village un peu perdu, solitairement encaissé dans un massif montagneux peu accessible, le paradis des chasseurs, soumis aux aléas climatiques, la neige, le gel, les crues soudaines et mortelles. Tout le monde se connaît dans ce village, les gens vivent les uns avec les autres depuis toujours, s'observent, s'épient, se jugent, tu vois le genre.
Ouais.
Un concentré humain un peu endogame, sans beaucoup d'ouverture sur les autres. Quand les deux fillettes de 11 ans, deux amies voisines en plus, disparaissent, toute la communauté se mobilise pour les chercher, pour soutenir les parents. Mais derrière la solidarité affichée, il y a de vilains secrets, des rancunes et des jalousies tenaces, bien entendu.
Oh, ça va parler rigolo non plus, ça.
Pas trop, non. 5 ans après, quand la vie a repris son cours, alors qu'une forme de normalité s'est installée, une des deux fillettes réapparaît, Anna, blessée à la tête dans un accident de voiture dont le chauffeur est mort sur le coup. Et elle ne se souvient apparemment de rien. Alors, est-ce que c'est la prudence et la peur qui lui imposent cette amnésie? A-t-elle vraiment perdu la mémoire? Et qui était l'homme qui conduisait la voiture? Et est-il encore temps de sauver Lucia, l'autre enfant? Les deux familles qui jusqu'ici étaient unies dans leur désespoir sont soudain rivales, bien entendu, et les conflits jusque-là enfouis vont refaire surface. Les langues vont aller bon train maintenant, mais de là à dire la vérité. Alors c'est un roman angoissant avec ce huis clos, ce village paumé qui fonctionne comme un piège. Les rumeurs, les médisances qui se mêlent à la vérité. Les uns et les autres sont comme des chasseurs qui épient sans faire de bruit pour mieux tuer. Les personnages ont plusieurs facettes et chacun tait une partie de lui-même. Anna ment aussi bien sûr, surtout Anna. Et la vérité est exceptionnellement dérangeante. Je ne dis rien, promis juré. Donc voilà, Monte Perdido d'Agustin Martinez.
Et c'est chez Actes Sud.
Ouais, chez Actes Sud, Actes Noir, quoi.
Et le second?
Alors, mon dernier roman, toujours chez Actes Sud, c'est de David Schaeffer et il s'appelle Whiskey Tango Foxtrot. Oui, enfin bon.
Ouais, what the fuck?
Oh, tu l'as dit. Traduit par l'armance. Tu ne renonces à rien, toi, hein. Alors là, rien à voir du tout. Au diable, les moches, les mioches et la famille, il n'y a pas d'enfants. 3 personnages, une jeune femme américaine, Leila, qui se trouve en Birmanie pour le compte d'une ONG et qui prend conscience qu'elle s'est par inadvertance fourrée dans un traquenard dangereux. Et sa famille aux États-Unis est victime d'un odieux complot destiné à lui faire très peur et c'est assez réussi. On rencontre aussi un loser fini, Léo, drogué, alcoolique, incapable de s'insérer dans la société, un genre de rien, même pas foutu de start-upper, et qui a une peur parano de la surveillance généralisée.
Et il va pas dans les gores?
Pas du tout. D'accord. Il déteste.
D'accord.
Il a raison.
Bah oui.
Il tient un blog dans lequel il développe à loisir ses théories conspirationnistes entre quelques verres et pas mal de drogue. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais ça désinhibe.
Ah, c'est pire, c'est mal.
Et Marc, un autre amateur de substances en tout genre, qui a trouvé la bonne astuce pour vivre largement sans trop se fouler en écrivant des livres de développement personnel. Le genre de truc très à la mode qui explique comment devenir un grand entrepreneur et par là même faire la fierté de sa nation. Enfin, tu vois quoi.
Oui. Comme moi quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Il a un succès phénoménal, tant et si bien qu'il devient le coach personnel d'un mania de la surveillance généralisée justement, Jack Strong. Alors à E3, ces personnages vont essayer de lutter contre le comité, une sorte d'état occulte dans l'État qui a pour objectif de collecter les données personnelles de chacun pour les revendre, les exploiter et les utiliser comme bon lui semble pour faire un max de profit, et surtout dans un but de contrôle généralisé du monde. Bah ouais, il faut voir grand quand on ne veut pas être rien.
Ah ouais, genre Google quoi.
Voilà. C'est toi qui l'as dit. Hein.
Oui,
on va avoir des ennuis avec toi. Hein.
Chut.
Les aventures ne font que commencer. Alors c'est à la fois très drôle, moi j'ai un gros faible pour les deux hommes qui se défoncent allègrement et font la nique à la société en refusant d'entrer dans le moule. Ils débordent sans cesse du cadre prescrit. Il y en a un autre qui déborde du cadre, je crois. incapables de devenir des citoyens obéissants et tranquilles. Jusque dans leurs excès, ils revendiquent la liberté pour rien, juste parce que c'est la liberté, sans idéal politique particulier à défendre pour commencer, simplement parce que c'est pas supportable d'être soumis et contrôlé. L'histoire est super crédible, la parano après tout, c'est peut-être juste se rendre compte avant tout le monde qu'on vous veut du mal, et on a déjà pas mal le sentiment d'être des marchandises comme les autres. Alors,
ouais, et puis c'est pas parce qu'on est parano qu'il y a personne qui nous en veut.
Absolument. Bon, alors voilà, si avec ces romans, vous avez encore du temps pour regarder la télé, ben, au moins baissez le son, il y en a qui lisent.
Exactement, et tu nous proposes même un petit peu de musique.
Voilà, je vous propose Karma Police de Radiohead. C'est peut-être pas assez métal pour toi, mais ça correspond bien à l'ambiance.
Mais ça me va très bien. Merci beaucoup.
Bien. Allez, belle fin d'été. Ciao, Patrick.
Bonnes vacances. Ciao. Actualité chargée pour l'ex-flic devenu un des maîtres du suspense made in France, Pierre Poucheret, qui a sorti Mortel Trafic chez Fayard, qui est devenu prix du Quai des Orfèvres 2017 en novembre dernier, et La Prophétie de l'Anglais chez Gigal Polar, qui est paru en mars 2017. Bonjour Pierre.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ah mais t'es devenu un classique maintenant dans des polars et des notes. Donc Mortel Trafic, c'est plus une histoire vraiment de flic. C'est un peu la base du prix du Quai des Orfèvres.
Oui, il n'y a pas franchement un cahier des charges, mais disons que quand on concourt pour le Quai des Orfèvres, il faut être très proche de la réalité policière.
Et comment c'est toi qui décides de concourir à ça ou tu écris un roman spécialement pour ça ?
Alors ben oui, parce que la base du prix du Quai des Orfèvres, il faut envoyer un texte tapuscrit, anonyme, et il faut que ça soit très très proche de la réalité policière. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas dans le possible, disons.
Ouais, pas d'erreur de procédure, pas de choses totalement impossibles en France.
Exactement. Et bah, dans mon livre, j'ai un peu fait un catalogue de ce qui est une enquête qui mène tous les services de police judiciaire à travailler sur cette investigation qui débute par un meurtre et qui fait également travailler la brigade des stupes de Nice. Donc... tout ça, c'est pas documenté, hein. C'est un peu beaucoup de souvenirs parce que j'ai été moi-même flic au stup à Nice, j'ai été dans une brigade criminelle en région parisienne et j'ai fait pas mal de travail aussi à l'étranger, comme tout ce qui va apparaître dans ce livre.
Oui, parce que dans le livre, on va en Espagne, on va en Italie, on va un petit peu partout. Et par contre, dans La Prophétie de l'Anglais, c'est un livre que tu as écrit, il y a deux personnes, il y a quelqu'un qui t'a suggéré l'idée.
Voilà, alors ce livre a été écrit avec un banquier international qui m'a contacté et qui m'a un peu suggéré le scénario et... C'est deux expériences en fait. D'un côté, on a une expérience policière, la mienne, et pour lui, puisque ça met en scène Reda. Reda, c'est un jeune issu des banlieues qui a bien réussi sa vie, qui est devenu trader. Et il travaille dans une grande banque internationale et il va mettre le doigt sur une transaction suspecte. Lui, il pense qu'il va pouvoir surfer sur cette transaction, qu'il s'agit d'un délit d'initié, et en fait, ça cache une machination qui va lui attirer beaucoup d'ennuis.
Ouais, La Prophétie de l'Anglais, c'est un bouquin dont on ne peut pas vraiment parler parce que la moindre phrase dessus, ce serait spolier le bouquin. L'énigme est extrêmement complexe et très fragile.
C'est tout à fait vrai, mais je vais quand même expliquer un peu pourquoi La Prophétie de l'Anglais, parce que l'anglais, c'est la base de la CIA, mais ce n'est pas du tout un livre d'espionnage. En fait, c'est parce que la CIA a mis au point un système de surveillance des transactions bancaires qui s'appelle Prophétie. Et pour expliquer un peu la base de Prophétie, si par exemple tout va bien sur une compagnie et qu'elle est jouée à la baisse alors qu'il n'y a aucune raison que l'action baisse, bien peut-être qu'il y a une menace. Imaginons qu'on joue l'action Air France à la baisse, peut-être qu'il y a une menace sur les avions d'Air France. Et il y a eu une réalité il n'y a pas très longtemps, puisque le club de football de Dortmund a été attaqué, il y a eu une bombe qui a été posée devant leur car. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était un gars qui avait joué l'action de Dortmund à la baisse et qui voulait la faire baisser en commettant un attentat sur ce club de foot.
Et comment on écrit à deux ? Tu écris à deux ou c'est lui qui t'a filé l'idée et toi tu as écrit dessus ?
Alors, écrire à deux, c'est beaucoup plus... il faut beaucoup plus un cadre et une discipline que quand on écrit seul. Parce que là, ce qu'on a fait, on s'est réunis une bonne journée. On a ensemble détaillé chapitre par chapitre le bouquin. Et on s'est un peu partagé le travail. Voilà. Donc, il fallait dès le départ savoir exactement... comment aller s'articuler le livre, alors que quand j'écris seul, souvent, je me laisse aller.
Mais tu as écrit des parties et lui, d'autres ?
Tout à fait. Il a écrit, disons, beaucoup plus du début, toute la partie bancaire. Et moi, j'ai écrit beaucoup plus sur les scènes d'action et sur toute la partie policière.
Ok, nous on est en train de mener une enquête là, sur les auteurs de romans noirs, donc on pose un peu les mêmes questions pour tirer un profil, faire un portrait robot. Non, évidemment, moi je pense que tu as écrit des romans noirs parce que c'était quand même un peu ton métier au départ. D'être flic, ça conduit au roman noir, non ?
Oui, ça en fait partie, mais j'essaye de me détacher de ça parce que, comme tu as dû le voir dans mon dernier livre, j'ai un héros, c'est Reda. Reda, il va mener aussi une partie de l'enquête pour se dédouaner de quelque chose qu'on lui reproche. Et donc, ça laisse plus de liberté.
Et tes influences, est-ce que tu lisais des polars avant ou d'autres auteurs ou de la littérature classique ?
Absolument pas. Je me suis mis vraiment à lire du polar quand j'ai commencé à en écrire. Avant, je lisais plutôt du témoignage, des livres sur l'actualité.
Et tes relations avec tes personnages, est-ce que tes personnages, ils t'habitent, ils restent en toi, ils tournent, ou alors est-ce que c'est une histoire que tu racontes et tu es assez détaché
Mes personnages policiers sont souvent quand même très proches de moi dans leur manière d'être. Quand c'est des gens qui sont pas très sympathiques, ça peut être aussi des gens que j'ai connus.
Et c'est pas des gens proches de toi quand ils sont pas sympathiques ?
Si, également. Hein, j'ai eu des collègues avec qui je m'entendais pas, que je décris un peu dans mes bouquins.
Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se mettre à écrire un roman noir ou à écrire un roman policier ?
Non, je crois qu'il faut, se faire plaisir. L'histoire est très importante. Hein, et puis surtout les personnages. Il faut que ça soit des personnages pour qui un lecteur aura de l'empathie.
Et l'importance de la musique, parce que je sais que tu es assez fan des Beatles, fan de McCartney. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu écris ?
Toujours. Mais d'ailleurs, j'écoute toujours de la musique, hein, que ce soit en voiture, en écrivant, chez moi. J'écoute de tout, hein, aussi bien comme mon personnage de Mortel Trafic, j'écoute de la musique française des années 30, autant j'écoute du hard rock ou du jazz.
Oui, la Madelon, je me rappelle.
Voilà.
Et donc l'appareil autobiographique qu'on a vu. Et est-ce que tes personnages, tu arrives à t'en débarrasser une fois que le bouquin est fini, tu n'y penses plus ou est-ce qu'ils restent comme ça ? Mais c'est vrai que tu as aussi une particularité, c'est que tu aimes bien un peu tuer tes héros aussi.
C'est pas faux, mais enfin, je les tue. Il leur arrive des drames, mais peut-être qu'ils sont pas morts. Hein. Voilà. Mais effectivement, j'aime pas que ça finisse bien.
Ouais. Mais tes personnages, est-ce que tu n'y penses plus ? Une fois que c'est écrit, c'est écrit.
Non, j'y suis attaché. Alors c'est justement mon problème, c'est que comme j'ai écrit des histoires vraiment très très différentes, il y a des personnages que j'aurais aimé garder et qui ont disparu. Et je suis un peu attaché à tous, donc on les retrouvera. Là, je vais essayer de m'arrêter à ceux qui existent déjà et travailler avec eux tout le temps.
Et tu as écrit une terre pas si sainte, à l'ombre des patriarches, donc beaucoup de relations avec la Palestine et ce qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie. Est-ce que tu suis l'actualité de très très près pour la retranscrire dans tes bouquins ?
Alors ben là, je ne la suivais pas de très très près, je la vivais puisque j'étais ouais. Dedans. Donc je n'ai pas eu de bouquins jusqu'à maintenant documentés. Tous les bouquins que j'ai faits, c'est vraiment avec des souvenirs et avec du vécu. Que ça soit sur la Palestine ou sur l'Afghanistan. À partir de septembre, ma femme va être renommée dans un poste à l'étranger où je vais l'accompagner. On ne sait pas encore où, donc ça sera certainement une base de polar. Hein.
Donc c'est bien parti. Alors juste pour toi, j'ai choisi le morceau. Ça s'appelle Plutonium Forever, Is Forever. C'est tiré d'un album de 1979 qui s'appelle No Nukes et c'est chanté par John Hall. Et il faut lire La Prophétie de l'Anglais et vous comprendrez pourquoi.
C'est un très très bon album où il y avait Bruce Springsteen également.
Et il y avait beaucoup de gens. Merci beaucoup Pierre, bon festival.
Merci.
Sort of a Caribbean No Nukes song. We'll be right back. wondering if mankind is cursed. He's ruining the sky and the ocean even worse. But I'll predict the cause of his eradication from the earth. Forever. Now oil slicks someday will disappear. We'll stop dumping PCBs in a few years. But there is one pollutant that we should really fear. Oh, plutonium is forever. But will it go away? For our purpose is never. It will be here past today. Yes, plutonium is forever. Now, carbon monoxide can only steal your breath. Asbestos poisoning give the workers a horrible death. The aerosol and the concord make sure there's no ozone left. But plutonium is forever.
John!
Today.
Yes, plutonium is forever.
Now some want the oil company to have to face divestment. And some want the utility to be denied the rates adjustment. But now they're all after plutonium that think it's such a good investment. Because plutonium is forever.
Take it away!
Plutonium is forever.
One more time.
Alors je suis avec Anne de Pasquale, qui est californienne et qui habite en France depuis très longtemps, qui a sorti son dernier roman noir, c'est Alex Babies, qui est sorti chez Marabout. C'est votre troisième roman ?
Oui, c'est mon troisième roman, tous les trois chez Marabout, absolument.
Et le pitch, ça raconte ?
Alors, Alex est une Américaine qui vit dans le Perche, en Normandie. Et c'est l'histoire de cette femme qui vit seule parce qu'il y a 20 ans auparavant, son bébé était volé à l'hôpital le jour de sa naissance. Et donc, il y a tout un mystère autour de cette disparition de bébé qu'elle croit mort. Et aujourd'hui, elle a des éléments qui lui font soupçonner que son bébé n'est peut-être pas celui qu'on a trouvé, le corps qu'on a trouvé. Donc, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le livre. Ce que je voulais dire le plus, pour moi, c'est un livre qui me tient vraiment au cœur, parce que c'est un hommage au Perche, qui est un pays absolument magnifique, à ma maison, qui est une vieille ferme en pierre que j'aime profondément, et puis les animaux jouent beaucoup un rôle... l'amour des animaux qui aide cette femme à surmonter sa peine.
Oui, parce qu'au départ, vous êtes californienne et puis vous avez une carrière assez impressionnante parce que vous avez tourné dans un James Bond.
On revient toujours au James Bond. J'ai fait quand même pas mal de films plus intéressants, point de vue comédie.
Allez-y.
Mais, j'ai eu la chance de tourner dans un petit film grec quand j'étais touriste en Grèce. Qui a fait le tour du monde, qui a été au Golden Globe. Ça s'appelait Koritia Stonilio, ça veut dire Jeune fille au soleil, qui est un titre absolument stupide. Mais c'est une histoire d'amour entre un berger grec et une jeune anglaise. Et ce film a été tourné en noir et blanc, en équipe de 4 personnes, avec rien, pas d'argent, et ça a fait le tour du monde. Et ce film m'a propulsé dans le monde du cinéma. Donc je suis venue en France... J'ai fait plusieurs films en Grèce. Et après, je suis venue en France avec ce film. J'ai eu une copie de ce film. Donc, j'ai tourné... qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai tourné dans beaucoup de séries de télévision. Et puis, j'ai tourné avec Woody Allen dans Guerre et Amour. Avec Michel Drache, avec Victor Lanoux, Marie-Josée Natt. Dans Le Passé Simple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tourné avec Michel Souter, le metteur en scène suisse, L'amour des femmes, très très beau rôle, et puis plein d'autres choses.
Et vous êtes musicienne aussi, je crois.
Comment vous savez ça?
Ah, c'est mon petit doigt.
Oui, je joue du Nouvelle-Orléans, dans un groupe de Nouvelle-Orléans, du jazz traditionnel, oui.
Du bon. Comment vous êtes arrivé à écrire des romans noirs?
Parce qu'avec mon... Bon, j'ai toujours aimé ça. Moi, je dirais pas noir. J'aime pas les romans noirs avec beaucoup de gore, des choses comme ça. Moi, c'est plus suspense psychologique. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai été scénariste pendant 10 ans avec mon deuxième mari, qui était comédien. Et le fait de travailler tous les jours, de renvoyer le ballon, de trouver des idées sans arrêt, je me suis dit, tiens, j'ai une idée un jour. Et j'ai commencé à écrire un roman pour moi. Pour moi, parce que j'écris en anglais, et écrire dans un petit village perdu en Normandie en anglais, envoyé à qui? Et j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai mis dans un tiroir, et puis un jour, quelqu'un l'a lu, qui connaissait quelqu'un dans les éditions, et quelqu'un qui Marabout, l'éditrice, lisait l'anglais, et tout ça s'est bien passé, tout de suite édité, et j'ai eu beaucoup de chance.
Bah, c'est une belle histoire. Et vos influences, vous lisez beaucoup de romans noirs, de polars, de thrillers?
Oui, c'est ce que j'aime. Je lis un peu de tout, mais je préfère le suspense. Oui. J'aime beaucoup Harlan Coben, j'aime beaucoup les grands. Ouais.
Et quand vous écrivez, est-ce que vous partez sur un plan ou est-ce que vous improvisez? Vous vous racontez une histoire ou alors vous prévoyez d'avance ce qui va arriver?
Puisque le métier de scénariste m'a donné une discipline de construction, je construis longtemps avant les grandes lignes. Et après, quand on écrit, bon, je sais où je vais, mais il y a toujours on bifurque à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça change, les personnages changent. Celui qui doit être mort reste vivant. Enfin, on change tout le temps.
Donc vous arrivez à être surprise par vos personnages?
Ah oui, tout le temps.
En fait, vous vous racontez une histoire.
On raconte une histoire, voilà. C'est tout est fiction, mais basé sur, bien sûr, inconsciemment, sur des gens qu'on rencontre. Par exemple, un jour, je pourrais vous écrire comme un personnage, ou vous, l'ingénieur du sang qui est à côté de moi. Mais c'est vrai qu'on invente des histoires, et chaque fois, je peux vous dire que on est passionné par surtout le personnage principal avec qui on vit jour et nuit.
Oui, il vous hante?
Oui.
Et même après la sortie du livre?
Oh oui. En ce moment, je viens de finir, je vous dis très vite, un suspense pour les jeunes. Et la petite fille, elle a 11 ans, Priscilla, et je vis avec elle tout le temps. Je suis complètement amoureuse de cette fille. Pourtant, c'est moi qui l'ai créée. Et on est physiquement et émotionnellement avec nos personnages.
Et il faut combien de temps pour que ça s'évacue? Il faut qu'il y ait un autre personnage qui surgisse?
Pour le même roman ou pour un deuxième roman?
Entre le moment où votre roman il est publié, il est sorti, pour que ce personnage-là s'en aille un petit peu, et il faut qu'il y ait un autre qui prenne sa place?
Oui, si on n'écrit pas... Oui, si on commence une nouvelle histoire complètement. Mais celle-là, je crois que je vais en faire une trilogie avec la même petite fille. Donc elle revit encore.
Ah, vous n'arrivez pas à la quitter?
Je ne peux pas la quitter. Elle est trop mignonne.
Et un conseil pour les auteurs en herbe, ceux qui veulent débuter dans le roman noir, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner?
De ne pas perdre de l'espoir, de ne pas penser à... Qui va lire ça? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est mauvais, c'est pas bon. De vivre sa passion, de s'amuser et de ne pas penser aux résultats.
C'est ne pas se décourager surtout.
Ne pas se décourager.
Et travailler beaucoup.
Oui, travailler beaucoup, mais surtout travailler dans le bonheur.
Et pareil, vous êtes musicienne, donc est-ce que la musique a une importance quand vous écrivez? Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant ou est-ce que vous faites référence à de la musique?
Non, j'écris dans le silence. La musique n'a absolument rien à voir, sauf en étant musicienne. Ma mère était très bonne pianiste. Je pense que ça joue dans la musique, dans les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est très important dans l'écriture. Ça sonne bien ou ça sonne pas bien. Et je pense que c'est en liaison avec la musique.
Ouais, y a une musicalité des phrases.
Ouais.
Vous écrivez en anglais. Est-ce que la musicalité de la phrase est la même en français quand elle est traduite?
Non, c'est pas du tout pareil.
Et c'est vous qui traduisez?
Ah non, si je traduisais, je pourrais écrire directement en français. Non, je ne peux pas traduire. J'écris dans ma langue maternelle. Par contre, je suis de très près la traduction. Je travaille avec les traducteurs parce que j'ai la chance de parler le français. Et donc, je peux contrôler tout, jusque du début à la fin.
Et justement, vous retravaillez cette musicalité en français. Vous influencez un petit peu le traducteur ou la traductrice pour garder cette musique?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Si quelque chose ne sonne pas bien, je lui dis et puis on trouve, mais je ne sais pas.
Oui, ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose qu'on ressent comme ça.
Instinctif, oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Anna Di Pasquale. Je rappelle votre roman, c'est Alex Baby, qui est paru chez Marabout en 2015. Vous êtes musicienne de Jazz New Orleans. Donc ben, on va vous laisser choisir un morceau pour illustrer votre interview, un morceau de jazz.
Ah, alors All of Me. Thank you.
Donc, il dit festival Le Chien Jaune, évidemment, dit organisatrice. Et donc, on va recevoir Marie-Joëlle Le Tourneur, Mijo, et
Monique Eliès,
qui sont les organisatrices de ce festival. C'est la 23e édition.
Puis 23 ans, donc ce festival perdure sur Concarneau et devient un événement important.
Et vous êtes là depuis le début ?
Et non, pas depuis le début, depuis 10 ans, présidente du festival.
Et au niveau fréquentation, ça augmente, ça baisse ?
Ça augmente. Et nous sommes de plus en plus reconnus. Nous avons de plus en plus de visiteurs.
C'est beaucoup de travail ?
Oui, c'est un travail pratiquement sur toute l'année pour organiser cette manifestation. C'est beaucoup de travail pendant, mais on est une équipe super. Donc ça va très bien.
Et pour faire venir les auteurs ?
Alors là, ça dépend du thème. Cette année, nous avons choisi de travailler sur polar et cinéma. Donc en tout début d'année, dès la fin du festival, en fonction du thème choisi pour l'année suivante, nous faisons notre sélection d'auteurs. Et ça dépend un peu du thème, ça dépend de l'actualité de l'auteur. Et on n'a jamais du mal à en trouver puisqu'ils se pressent tous pour venir à Concarneau.
Ah, donc c'est un festival qui est de plus en plus renommé.
Tout à fait. Oui. Nous avons été sollicités à Quai du Polar à Lyon cette année et où nous avons fait partie de table ronde justement sur l'organisation des festivals français.
Ça représente combien de bénévoles un festival comme le Chien Jaune ?
On a une bonne vingtaine de bénévoles.
Toute l'année, qui travaillent toute l'année ?
Qui travaillent surtout donc au moment du festival et sinon sur l'année, on est une bonne dizaine super actifs.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi des enquêtes pour les enfants tout au long du festival ?
Oui, il y a des tas de manifestations annexes. Nous avons des ateliers créatifs pour enfants. Nous avons des enquêtes pour enfants, effectivement, également. Nous avons des lectures de polar des personnes qui sont invitées au festival et qui sont lues donc sous le chapiteau. Nous avons cette année inauguré un défilé de chiens dimanche après-midi, costumé.
Défilé avec des chiens.
Défilé avec des chiens et leurs maîtres. Costumé, donc ça c'est une nouveauté du festival. Tous les ans on essaye d'ajouter un petit peu d'animation et puis bien sûr les rencontres auteurs-lecteurs qui restent quand même le point fort du festival.
J'ai vu qu'il n'y avait pas seulement des auteurs de polar, il y a aussi de la bande dessinée, il y a aussi des romans graphiques.
Oui, on a des BDistes de renom qui sont de plus en plus courus sur les salons et ils sont excellents, dont Titoine. On a Guillaume Delacour qui nous a fait l'affiche il y a 2 ans. On a Laureline Mathiussi qui nous a fait la superbe affiche de cette année sur le thème du cinéma des années 60-70. Et c'est remarquable.
Bon alors, longue vie au Chien Jaune. C'est parti pour encore 23 ans.
Je ne sais pas si on sera là dans 23 ans, nous, mais peut-être quelqu'un prendra la suite. On espère en tout cas. Le festival, j'espère qu'il perdurera, oui.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va écouter un petit peu de musique. Et j'ai choisi Bessie Smith, Yellow Dog Blues, évidemment.
Très bien, bravo.
Merci beaucoup.
Everywhere that Uncle Sam is
seen him there, and he was on the hog. All you easy riders got to see our way.
Et voilà, c'est fini. L'équipe de Dépolarer des notes vous souhaite d'excellentes fins de vacances. Nous nous retrouvons en septembre avec une rentrée littéraire particulièrement chargée, puisqu'elle débute dès le 24 août cette année. Il n'y a plus assez de jours à la rentrée. Bonne lecture, à très vite, ciao.